Alors, on va continuer notre série dans le prophète Ésaïe. Donc, semaine après semaine, avec des petites pauses, on continue. Et on est arrivé à la fin du chapitre 8. Donc, pour comprendre les quelques versets que nous allons lire tout à l'heure, je vais le remettre un peu dans son contexte. Le titre était, vous avez vu, « Une lumière resplendit ». Voilà. Alors, voilà le contexte. Il s'agit du roi Akaz. C'est le roi à Jérusalem, le roi de Juda. Et il est menacé parce que deux autres pays, Israël, donc à ce moment-là, le peuple d'Israël était divisé en deux, Juda au sud et Israël au nord, donc Israël et les Syriens ont comploté pour faire une coalition et voulaient que Juda fasse partie pour s'opposer à l'empire assyrien. Donc, mais Ésaïe vient dire, ne t'inquiète pas, sois tranquille, fais confiance à Dieu. Akaz n'a pas voulu écouter. Donc, il a fait appel aux Assyriens pour s'opposer aux Syriens ou aux Israélites plutôt que de faire confiance à Dieu. Il était encore plus loin que ça parce qu'une fois que ça a été accepté, il a même été installé l'autel, le modèle, selon le modèle des Assyriens, dans le temple de Jérusalem pour adopter la religion des Assyriens. Donc non seulement il n'a pas fait confiance à Dieu, mais il a mis sa confiance dans une puissance militaire et dans d'autres dieux. Mais, comme j'ai dit, on ne peut pas toujours faire confiance à de tels alliés. Les Assyriens sont venus, ils ont attaqué Damas, donc capitale de la Syrie, ils ont détruit aussi Samarie, et puis, comme j'ai dit la semaine dernière, ils n'ont pas voulu s'arrêter en si bon chemin, donc ils sont retournés même contre Juda, qui avait fait appel aux Assyriens. Résultat, les ténèbres et l'obscurité. Et c'était là les derniers versets que nous avions lus la semaine dernière. Je reprends donc Ésaïe 8, 20 à 22, avant de lire la suite. Donc, Ésaïe a dit, « À la loi et au témoignage ». Que dit la parole de Dieu? Si l'on parle ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera. Il maudira son roi. Il maudira son Dieu. Il tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre et voici, il n'y aura que détresse, obscurité, sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Donc vous voyez, sombres angoisses, obscurité, épaisses ténèbres. Quel espoir! Et c'est là justement que tout d'un coup, Ésaïe ouvre une porte, ouvre une fenêtre, et vous voit autre chose. Et c'est là on va lire la suite, donc à partir du verset 23. Ésaïe 8, 23. Je lis. « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. » Sur la terre, où il y a maintenant des angoisses, si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des païens. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madéon. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée, tout vêtement guerrier roulé dans le sang, seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donner à l'empire de l'encroissement une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Donc, on passe des ténèbres à la lumière. Quelle perspective! Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va d'abord regarder ce texte un petit peu plus dans le détail, puisqu'il y avait un petit problème d'ordinateur, j'aurais préféré le mettre petit à petit, mais ça marche plus avec cet ordinateur-là. Donc, voilà. On va suivre quand même verset par verset. Et après, on va voir ce que Jésus a dit par rapport à la lumière. Parce que, on arrive à la fin, on voit bien que c'est un texte messianique. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ok? Donc, on est quand même d'abord à cette période, 800 ans avant Jésus-Christ. Mais quand Ésaïe dit qu'il y aurait de la lumière, c'est un prophète qui voit plus loin que simplement que le moment ponctuel de ce problème des Assyriens. Il va plus loin même après que l'empire des Babyloniens, de l'empire des Mèdes et Perses, des Grecs, jusqu'au moment où les Romains sont là. Et il parle de Jésus, déjà. C'est un texte remarquable. Et les évangélistes, donc ceux qui ont écrit les évangiles, ne sont pas trompés parce qu'ils citent ce texte. Parce que d'abord, des versets 23 et donc à la fin du chapitre 8. Parfois le découpage biblique n'est pas parfait, les versets on les a ajoutés après. Pourquoi ils n'ont pas commencé le chapitre 9 là? Personne ne sait, parce que c'est le nouveau thème qui arrive avec la lumière. Mais bon. Ces versets-là parlent de Zabulon et de Nephtali. Donc, Zabulon et Naphtali, c'était le nom de deux des 12 tribus d'Israël. Et quand ils ont quitté l'esclavage en Égypte, quand ils se sont établis dans la terre promise, il y avait une sorte de tirage au sort, les différentes tribus on leur a attribué différentes parties du pays, et Zabulon et Naphtali, c'était le nord, à côté du lac de Galilée. Donc, et justement, à la fin du verset 23, il dit « Le temps à venir couvriront de gloire les contrées voisines de la mer. » Donc, la mer en question, c'était la mer de Galilée ou le lac de Galilée. Parce que c'était les deux tribus qui étaient à côté du lac de Galilée, de part et d'autre, en fait, aussi de ce lac. Parce qu'on parle aussi du territoire des païens, au-delà du Jourdain. Mais malgré tout, même jusqu'à l'époque du Nouveau Testament, quand Jésus monte jusqu'à, comment il s'appelle, à Césarée, pas Césarée sur le bord de la mer, mais au nord du pays, c'était connu comme le territoire des païens parce que c'était un territoire très mixte. La population était très mixte, même à l'époque de Jésus, dans le lointain nord de la terre promise, de Palestine. Et ce qui est intéressant, ces versets-là, c'est Matthieu qui les cite. Donc on va le lire dans Matthieu 4, 12 à 17. Donc on a déjà raconté la naissance de Jésus, Matthieu a déjà raconté la naissance de Jésus, le ministère de Jean-Baptiste, la tentation de Jésus dans le désert. Et là, je reprends la lecture de cet évangile, Matthieu 4, verset 12. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée et quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, donc du lac de Galilée, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, citation, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Et dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Voilà. Matthieu cite ce texte d'Ésaïe, donc il a bien vu que c'est un texte messianique, un texte qui parle donc de la prophétie, de la venue de Jésus. On revient dans Ésaïe, parce que maintenant on a situé l'époque où cette période, cette prophétie va se réaliser sur Jésus. Et à ce moment-là, on va dire, tu rends le peuple nombreux. Je pense que quand on voit le nombre de chrétiens dans le monde aujourd'hui, le peuple de Dieu est vraiment nombreux dans tous les pays du monde. Tu y accordes de grandes joies. Donc la joie d'être ensemble, comme nous ce matin. Le peuple de Dieu est joyeux, il se réjouit de son salut. Il se réjouit comment? Il y a deux comparaisons qui sont là, comme à la moisson. Je pense qu'il ne faut pas oublier à quel point, à cette période-là, la moisson était importante. Parce que si la moisson était réussie, s'ils avaient récolté tout ce qu'il fallait, ils pouvaient passer l'hiver sans problème. Ils avaient des pommes de terre, ils avaient les pois, les pommes, les châtaignes dans les Cévennes, ils avaient tout ça. Aujourd'hui, on ne prête pas attention au mois de septembre. Parfois, on entend une petite annonce sur le journal de 20h, il n'y a pas beaucoup de je sais pas quoi cette année. On se dit, c'est pas grave, il y aura autre chose. Et si on ne l'a pas ici, on va le faire venir du Chili ou je ne sais pas quoi. Quand Marie a trouvé des pommes une fois chez Franprix venues du Chili, qui étaient moins chères que les pommes françaises. Bon. On ne se fait pas de soucis. Mais à cette époque-là, c'est de la grande réjouissance. Si la récolte était bonne, on était contents. L'hiver, on allait passer l'hiver sans problème. Et n'oubliez pas que la Pentecôte, c'était la fête de la moisson. C'est le début de la grande moisson d'âmes du monde entier. Comment poussent des cris d'allégresse au partage du butin? Bon, ça c'est après une victoire militaire. Donc, peut-être il y a personne ici qui a pu partager le butin après une victoire militaire. Je ne sais pas comment comprendre. Bon, je pense que c'est une femme qui pousse des cris de joie au solde quand elle déniche le produit qu'elle cherchait dans la bataille des personnes qui cherchent dans les rayons. Bon, peut-être je pousse un peu loin, mais c'est une façon de dire le bonheur, parce qu'on a trouvé ce qu'on cherchait. Verset 3, le peuple ne sera plus opprimé. Le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, je les brise comme la journée de Madian. C'est, on ne sera plus esclave, on n'est plus esclave. Ça c'est un thème aussi qui traverse le Nouveau Testament. On n'est plus esclave, on est libre. Pour devenir esclave de Dieu, mais c'est librement et c'est notre joie. Et le texte dit, comme à la journée de Madian, c'est surtout une allusion à Gédéon, qui a battu les Madianites, donc dans le livre des Juges. Donc la grande victoire. Verset 4, il n'y aura plus de guerre. Il faut se dire que la chaussure qu'on porte dans le combat et le vêtement guerrier roulé dans le sang seront détruits. Là, par contre, en tant que chrétiens, nous vivons toujours une période de guerre, mais de guerre spirituelle. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière dans le culte du soir, avec l'histoire d'Esther. Il y a beaucoup de violence. Les peuples autour d'Israël attaquaient Israël pour essayer d'étouffer dans l'œuf le projet de Dieu qui se déroulait, qui devait arriver à la naissance du Messie. Aujourd'hui, en tant que chrétien, on n'a plus besoin de prendre les armes, parce que d'une part, les chrétiens sont partout, même si on détruit dans un pays, on ne les détruit pas partout. Et puis, la guerre est spirituelle. Donc, cette paix profonde, on sait qu'on l'a déjà, mais on le vivra éternellement dans la paix la plus parfaite. Puis on arrive à ces versets 5 et 6 qui sont nettement messianiques. Et il y a quatre titres composés. Merveilleux conseiller. Donc ce Messie est le roi. C'est pour ça que je dis, on va regarder 2 Samuel après qui parle de cela. Mais le Messie veut dire la personne qui a reçu l'onction. Et c'était surtout le roi qui recevait l'onction. Donc le roi est le merveilleux conseiller. Meilleur, plus sage même que Salomon. Il est le Dieu puissant. C'est une certaine allusion à la divinité du Messie. Il est le Père à jamais. Faisons attention là. Parce qu'en fait, quand on parle de la Trinité, on a Père, Fils et Saint-Esprit. Ce n'est absolument pas dans ce sens-là. C'est que le roi était connu comme le père du peuple. Et donc, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a beaucoup de rois dans l'Ancien Testament qui s'appellent Abimelech, parce que Abi, bon, c'est le père, bon, dans sa forme un peu du Nouveau Testament, c'est Abba, donc Abba, père. C'est toujours utilisé aujourd'hui. Je l'ai dit l'autre jour, je pensais à l'étude biblique, quand on était en Israël au mois de février, j'étais réjoui, on était dans le métro à Haïfa, et tout d'un coup, il y avait une petite famille à côté de nous, et le garçon a regardé vers son père et dit « Abba !» Exactement comme dans le Nouveau Testament. Hein. C'est le même mot qui était utilisé pour père. Donc, Abi, c'était la forme dans l'Ancien Testament, Melech, qui veut dire roi en hébreu. Donc, Abimelech, ça veut dire père roi. Et donc, quand on dit qu'il est le père à jamais, ça veut dire qu'il est le roi à jamais. Il ne faut pas confondre avec le père dans le sens de la Trinité. En fait, ça n'a rien à voir dans ce contexte où il parle du roi. Et puis, il est prince de la paix. Bon, là, on n'a pas besoin d'insister parce que Jésus est venu comme prince de la paix. Et qu'est-ce qu'il veut faire au verset 6? Il va faire en sorte que le trône de David et son royaume se développent à jamais. Et c'est pour ça que j'ai mis ce verset-là de 2 Samuel, que l'on peut regarder si vous voulez les chercher, sinon je le lis de toute façon. 2 Samuel 7, 12 à 16. Donc c'est la promesse faite à David, et qui part dans un premier temps de Salomon son fils, et qui l'élargit, plus largement que cela à la fin. Promesse donc de Dieu à David. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermerai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Donc, là, c'est vrai, Salomon l'a fait. Et j'affermerai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes, avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Donc, c'était le roi précédent. Mais maintenant, la grande promesse du verset 16, « Et ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. » Pour toujours. Et on sait très bien, quand on voit l'histoire d'Israël, à la déportation à Babylone, il n'y avait plus de roi. D'autres rois sont venus après, on parle du roi Hérode, etc. Mais ce n'était pas vraiment dans la lignée de David. Et on insiste au début des évangiles que Jésus est de la lignée de David. Donc c'est le roi qui accomplit cette promesse de Samuel. Donc on voit bien dans ce texte, concernant la lumière qui va venir, que c'est l'annonce par Ésaïe de Jésus qui va venir 800 ans après, et on est toujours dans cette période de la grâce, en attendant l'accomplissement de toutes choses, où le royaume de Dieu s'établira de façon éternelle. Alors, Pour la deuxième partie de ce message, je voulais revenir donc vers certains textes du Nouveau Testament qui parlent de Jésus comme la lumière. D'abord, il y a un texte un peu long, mais je me suis dit, je vais quand même le lire. C'est le prologue de l'Évangile de Jean, donc du verset 1 au verset 13, qui montre comment Jean est venu pour Jean-Baptiste est venu pour témoigner de cette lumière, et comment, en grande partie, le peuple d'Israël n'a pas voulu recevoir cette lumière, mais malgré tout, tous ceux qui croient en lui, en Jésus, deviennent enfants de Dieu, et qui ne sont pas nés de sang et de la chair, donc ce n'est pas les descendants de la ligne d'Abraham, sur le plan charnel, mais ceux qui avaient la même foi qu'Abraham, qui vont former le peuple de Dieu. Donc, je lis ce début de l'évangile de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde. Le monde a été fait par elle, mais le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, donc chez son peuple. Les siens n'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc on voit bien que Jésus est la véritable lumière. Et l'apôtre Paul dit un peu la même chose dans 2 Corinthiens, il dit, car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Ça tombe très bien parfois entre la présidence et le message, parce qu'on a parlé de la gloire de Dieu et les gens, les habitants du monde ne voyaient plus la gloire de Dieu. Comment on la voit? On la voit resplendir sur la face de Christ. C'est Jésus, en venant dans le monde, a révélé cette gloire. Et à ceux qui l'ont reçu, on sait bien qu'il est la lumière. Et Jésus l'a dit deux fois d'ailleurs dans l'évangile de Jean. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et puis de nouveau, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Donc, nous vivons dans la lumière. C'est cette lumière qui nous permet de voir les choses, de voir clair. Deux petites illustrations. Une que je n'avais pas prévu de dire, mais en pensant à ces arcs de triomphe, à Louis le Grand, je me suis dit, il y a quand même un parallèle avec Akaz. Parce qu'il voulait sa propre gloire, il voulait par ses propres moyens, et il n'a pas voulu vraiment de Dieu. Ce grand Louis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte qu'il n'était pas possible d'être protestant en France. C'est lui qui a créé, qui a révoqué l'édit de Nantes. Il y avait les dragonnades, les protestants envoyés sur les galères, pour ramer dans les galères. Chaque fois qu'on dit oh, aujourd'hui les transports à Paris, c'est la galère. Bon, je pense que la galère des protestants dans les bateaux était pire que les retards du métro ou du RER. Ils ont été emprisonnés. Marie Durand, hein, donc pendant combien de temps? Plus de 40 ans, je pense. C'était la persécution. Et le plus bizarre, vous savez, que qui a poussé le roi à vouloir interdire les protestants, c'était sa maîtresse. Donc, l'ironie, quelque part, il ne respectait pas la parole de Dieu, mais il a voulu interdire la Bible et les protestants en France. Donc, la gloire des hommes peut être complètement le contraire de la gloire de Dieu. Hein. Bon, enfin, j'ajoute ça parce que j'ai pensé au grand Louis. L'autre illustration est beaucoup plus terre à terre. Et je l'ai souvent raconté parce que c'était un événement que nous avons vécu avec Marie une fois, qui m'a permis de voir combien la lumière est importante. On était parti, il y a bien des années maintenant, à un séminaire des pasteurs de France Mission. Ça se passait dans les Alpes à Champfleury. Et donc on est arrivé assez tard le soir. Et puis, on s'est déshabillé, on s'est couché, on a mis nos vêtements un peu n'importe où. Le lendemain, c'était au mois de janvier, au petit déjeuner, il faisait toujours noir. Mais il y avait une panne de courant. C'était avant qu'on ait des téléphones portables avec lampes et tout ça. C'est vrai, il y a des murs. On ne savait même pas où étaient nos vêtements, en fait. On ne connaissait pas la chambre, on ne connaissait rien du tout. Et c'était le noir le plus complet. Le petit déjeuner, là, arrivait. Et on s'est rendu compte. Avec la lumière, on voit. Dans les ténèbres, on ne voit rien. Ça nous a marqué, hein, donc, ce petit événement. Je ne sais pas maintenant, quand je me déshabille pour me coucher, je fais un peu plus attention malgré moi. Parce que je mets les choses. Hein. Donc, les ténèbres, on ne voit pas. Je pense qu'on est dans cette situation dans notre monde actuel. Les gens pensent qu'ils sont dans la ténèbre, hein, donc on parle toujours de Paris, ville des lumières. Je ne sais pas s'il y a autant de lumière que cela. Le siècle des lumières. Je ne sais pas s'il y avait autant de lumière que cela. Même le philosophe André Comte-Sponville, c'est une belle phrase qu'il a écrite quelque part, en parlant de la postmodernité. Il dit, mais c'est quoi la postmodernité? Il dit, c'est quand on éteint les lumières, avec une L majuscule, donc le siècle et les lumières. Il reste plus de raison d'être. Alors, en tant que chrétien, j'ai mis trois autres versets qui nous concernent. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. 1 Thessaloniciens 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. C'est la raison. Je me souviens bien des années, au début d'un culte, j'ai souhaité la bienvenue à tous ceux qui étaient venus au culte, et j'ai dit « Bienvenue à la boîte du jour ». L'église, c'est pas la boîte de nuit, c'est la boîte du jour. Parce qu'on est enfants du jour, des enfants de la lumière. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Là, par contre, un petit mot d'explication est utile. Le problème avec la lumière, c'est qu'on voit bien où on met les pieds, on voit bien où on va, on comprend notre environnement, on comprend le monde, même anormal, on comprend notre espérance de vie éternelle, mais la lumière aussi brille et montre les saletés. Et je vois bien dans notre appartement, on est un peu plein sud, et certains jours en ce moment, ces dernières semaines, chaque fois qu'il y avait le soleil qui brillait, c'était bas dans le ciel, J'ai l'impression que l'appartement était couvert de poussière, hein. Même si on essaie quand même de faire le ménage. Mais on voit, avec la lumière, on voit la saleté. Et la lumière de Dieu, quand on marche dans la lumière, il nous montre aussi notre péché. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on le confesse. Et à ce moment-là, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et à ce moment-là, nous pouvons marcher en communion avec lui et avec les autres. Donc la lumière, même si on va dire qu'on voit la saleté, mais ça nous pousse à demander pardon et Dieu nous pardonne. Donc voilà, Jésus est la lumière. Et je suis... Bon, quand j'ai lu ce texte, il y a quelques semaines, quand je préparais cette série dans Ésaïe, je me suis dit, mais extraordinaire. On vient de passer deux chapitres où, on va dire, mais tout va mal. Ésaïe essaie de montrer le bon exemple, lui et sa famille, à la loi et au témoignage. Et tout d'un coup, il y a comme cet éclat de lumière qui arrive. Eux, ils devaient attendre encore des siècles. Nous avons la joie et le privilège de vivre aujourd'hui dans la lumière, au milieu des ténèbres. Donc, profitons-en complètement. Je vais prier. Seigneur, merci parce que tu es la lumière et quand nous marchons avec toi, nous ne sommes plus dans les ténèbres. Nous voyons comment les gens sont dans les ténèbres autour de nous qui ne comprennent pas grand-chose. Nous voyons à quel point l'histoire semble s'obscurcir à plein des égards. Peut-être que le mal a toujours été là. Merci Seigneur, parce que toi tu es la lumière. Tu nous montres le chemin à suivre pour que nous puissions vivre avec la bonté, la justice, la vérité. Et nous reposer dans cette lumière bienfaisante que tu fais briller sur nous. Merci au nom de Jésus. Amen. Thank you.